La chose qui est la population qu'on a voulu saisir au travers de ce questionnaire et qui est rarement saisie dans les enquêtes déjà établies, je pense par exemple au rapport de l'OST qui est très intéressant par ailleurs, mais il y a une population qui semble invisible parmi les invisibles au sein de la précarité, c'est celle donc qu'on a désignée sous le terme d'IT Abiatos parce qu'ils sont sur des postes d'IT Abiatos, donc des administratifs, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, et il était vraiment important pour nous qu'ils soient évidemment inclus dans cette recherche-là, d'abord parce qu'ils constituent, on ne sait pas grand-chose de leur expérience de la précarité, et parce qu'en plus, la prise en compte de ces personnels-là, comme les quatre catégories qu'on vous a données au départ sont en fait presque toutes séquentes entre elles, prendre en compte toutes les catégories possibles de précaires, c'est aussi comprendre mieux la précarité dans son ensemble, puisque certaines personnes remplissent des fonctions administratives, alors que par ailleurs, elles donnent des cours. Voilà, il y a toute cette compréhension aussi qui est nécessaire dans la compréhension de la précarité de l'enseignement supérieur et de la recherche publique. Je vous donne une des caractéristiques fortes de cette sous-population-là sur laquelle Annie Kiefer reviendra plus largement, c'est la faiblesse de leur rémunération. Selon ce questionnaire, un ITA ou bientôt sur quatre a perçu en moyenne une rémunération mensuelle inférieure à 1 250 € net et un sur 10 moins de 1 000 € par mois. Pour vous donner une idée des ordres de grandeur de rémunération concernant cette population. Le sexe, évidemment, fait partie des caractéristiques importantes à prendre en compte. Plus de femmes que d'hommes ont répondu au questionnaire, 60% des enquêtés. Elles sont largement majoritaires dans les SHS, les sciences humaines et sociales, 68%. Et elles sont surreprésentées particulièrement dans les emplois administratifs, puisqu'elles concernent près de 9 répondants sur 10. Alors tout ça, c'est pas très très surprenant. Il s'agit là de féminisation ancienne. En revanche, ce qui est quand même vraiment frappant, c'est à quel point le sexe est lié au montant des rémunérations quand on prend la population interrogée globale. Alors c'est vrai partout. Là, c'est très très fort puisqu'on a constaté qu'une femme sur trois parmi les répondants gagne moins de 1 250 € par mois contre un homme sur cinq. Dans la question des inégalités. À l'autre extrémité de l'échelle des rémunérations, on retrouve la même inégalité puisqu'elles sont moins d'un quart à gagner plus de 1 750 € par mois contre un tiers pour leurs homologues masculins. La question du sexe se retrouve dans la distribution de la population, non seulement dans le volume des rémunérations, mais aussi dans le fait d'avoir un emploi stable ou non. Donc le sexe expose aussi, ou semble exposer en tout cas, c'est ce qu'on voit dans ce questionnaire, à une plus forte probabilité d'être précaire, puisque par exemple, à titre d'exemple, dans la population des techniciens, dans le cas des titulaires, cette population est majoritairement faite d'hommes, alors que dans le cas des répondants à ce questionnaire, elle est majoritairement féminine. Alors à présent, je vais parler des deux catégories de précaires les plus précaires, qui se recoupent entre elles. Mais tout se recoupe tout le temps, c'est une des caractéristiques de nos résultats. Les plus précaires sont d'abord en sciences humaines et sociales, quand on fait la répartition de la population, quand on la ventile en fonction du champ disciplinaire, et ce, dans toutes les catégories de personnel, et quel que soit le sexe, la spécificité des SHS ressort. En ce qui concerne le montant des rémunérations, ça se vérifie dans toutes les catégories, depuis le financement de la thèse, qui est plus rare là qu'ailleurs, jusqu'à l'accès à des postes statutaires de chercheurs, en passant par les fonctions administratives et techniques. La spécificité des SHS se retrouve aussi en ce qui concerne l'irrégularité des rémunérations. Elle se retrouve dans le fait que 3 enquêtés sur 10 de ce secteur travaillent ailleurs. Donc 3 sur 10 en SHS, tandis que ce n'est le cas que de 1 sur 10 en sciences de la matière et de 6 sur 100 en sciences de la vie. L'autre résultat important concernant les précaires les plus précaires, c'est qu'ils sont à l'université. On constate que les plus basses rémunérations concernent les personnes qui ont pour employeur et financeur l'université ou l'enseignement supérieur, puisque 36% touchent moins de 1 250 € net par mois. Tandis que les meilleures rémunérations vont plutôt à ceux et celles qui sont employés soit par des institutions de recherche comme le CNRS, l'INSERM, etc., soit sous contrat du privé. Ce qui revient le plus souvent dans les dénonciations que les répondants ont inscrites en fin de questionnaire, dans les commentaires livres, ce sont deux spécificités qui rendent la précarité 4 minutes, qui rendent la précarité, mais ça c'est important, donc tant pis, ça je vais le développer, qui rendent la précarité insoutenable à l'université et qui en partie expliquent la faiblesse des rémunérations sur l'ensemble des précaires au sein de l'université. D'abord, c'est particulièrement concernant les administratifs, le fait d'être très souvent payé sur des contrats de 10 mois, c'est-à-dire que le contrat est interrompu pendant la période estivale, bon, pour des raisons que je ne détaillerai pas là, on y reviendra, mais donc les gens sont payés 10 mois sur 12 mois, avec deux mois blancs. L'autre caractéristique qui est revenue très souvent, et là, plus de la part des docteurs sans poste, c'est le fait qu'au-delà de 28 ans, on ne peut pas être rémunéré légalement, et donc ont été décrits des pratiques que l'on connaît bien quand on fréquente ce milieu, de prête-nom, de fausses factures ou de travail gratuit qui concernent par exemple 9% des doctorants et une part non négligeable des précaires dans leur ensemble. Alors je vais passer à présent à la deuxième partie de mon propos concernant le croisement donc des données plus subjectives, qualitatives avec les données objectives de la précarité. Alors d'abord, que signifie être précaire dans l'enseignement supérieur et la recherche publique? C'est d'abord de recevoir une rémunération au lance-pierre ou pas de rémunération du tout. Donc je reviens pas sur les exemples que je viens de vous donner. On voit vraiment des fortes disparités avec globalement des rémunérations basses. Les seuls qui gagnent bien leur vie dans leur précarité sont minoritaires. C'est les post-docs qui sont minoritaires non seulement par rapport à la population globale, mais par rapport à la population des docteurs sans poste, puisque 44% des docteurs gagnent plus de 1 800 € par mois. Et tout le reste est en dessous, pour dire les choses simplement. Une des caractéristiques des rémunérations, c'est qu'elles sont discontinues. On voit des mois sans rémunération. Il y a des creux très très forts qui se font jour dans l'ensemble des réponses. La deuxième caractéristique forte de ce que signifie être précaire dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est de cumuler, on l'a dit, hein, les employeurs, les financeurs, les fonctions, chose qu'on retrouve dans l'enchevêtrement des catégories et dans le fait que tous les groupes qu'on a qui ont répondu à l'enquête sont séquents entre eux. Un exemple significatif, par exemple, le groupe des chargés de cours, en plus de leurs heures d'enseignement en vacations, ils sont nombreux à avoir aussi d'autres charges d'enseignement en dehors. Ils assurent en moyenne des enseignements dans au moins une autre institution en plus de l'université. Et sur les 5 dernières années, Sur les 5 dernières années, ils sont 51% à avoir eu ainsi de 1 à 3 employeurs différents. Donc là, je vous parle des chargés de cours. 19% de 4 à 9 employeurs et 2% plus de 10 au cours des 5 dernières années. En ce qui concerne les rémunérations encore, hein, quelque chose qui revient très souvent et qu'on constate de façon objective dans les descriptions que font les répondants au questionnaire, c'est que la rémunération est souvent pas adaptée au diplôme et ne tient pas compte de l'expérience. Contrairement à ce qui se passe dans le secteur privé ou via des rattrapages de salaire dans la fonction publique, quand on est précaire, à chaque contrat, on repart à zéro. Et donc ça compte beaucoup dans, évidemment, l'accumulation des expériences et le fait que les rémunérations non seulement sont basses, mais en plus restent basses. La dimension symbolique de la précarité se retrouve à différents niveaux. Et d'abord, dans le fait, et ça c'est revenu très très souvent dans les commentaires de fin de questionnaire, le fait d'être à la merci de ses supérieurs hiérarchiques. On sait que les rapports de pouvoir sont existants, y compris entre titulaires, mais bien entendu, la situation de précarité renforce encore les rapports de pouvoir, notamment en rendant très dépendants les travailleurs précaires de leurs supérieurs hiérarchiques. On nous a parlé abondamment de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, de problèmes aussi entre collègues de même niveau, de diplôme et de même fonction, mais le seul fait d'être précaire par rapport à un collègue statutaire qui fait le même travail, qui a le même niveau de diplôme, ça crée de la hiérarchie entre les gens. Donc les rapports de pouvoir sont constamment renforcés par cette position-là et par ce non-statut-là. Toutes choses qui sont corrélées... Oups. Toutes choses qui sont corrélées avec le fait de ne pas être reconnu comme un personnel à part entière, ça évidemment c'est quelque chose qui est revenu souvent, qui est lié avec ce que je disais précédemment, avec le sentiment d'être un travailleur de second ordre. Car s'il y a un changement en ce moment dans la norme de l'emploi au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, la norme reste quand même l'emploi stable. Et ne pas avoir un emploi stable et pérenne, ne pas entrer dans la grande famille, c'est quand même être souvent considéré comme n'étant pas totalement légitime, ce qui se retrouve non seulement dans les discours, mais dans des pratiques quotidiennes, ne pas avoir son nom sur la porte de son bureau, ne pas avoir de bureau, ne pas pouvoir signer de papier, etc. Toutes choses qui révèlent aussi la dimension symbolique de la précarité. Et enfin, à titre dans les biographies individuelles, ce qui se retrouve, c'est cette impossibilité de se projeter dans l'avenir, et de façon très concrète, les difficultés d'avoir accès à l'allocation de logement parce qu'on n'a pas un dossier qui est considéré comme suffisamment fiable, la difficulté à se projeter dans une vie familiale, particulièrement quand on est obligé de bouger aux quatre coins de la France, toutes ces choses qui ont des conséquences très fortes sur la vie privée des répondants. Voilà, je passe la parole au détail des catégories et on commence avec les ITA et les Biatos. Merci.
Donc, moi, je vais parler.